Bonsoir. Je suis heureuse de voir que vous n'avez pas craint d'affronter les intempéries pour venir entendre Monsieur Robert Legros qui viendra nous parler de Tocqueville. On va voir une belle transition puisque nous étions avant dans le volet plutôt politique et nous entamons ce volet philosophique par un auteur qui a fait beaucoup de philosophie politique et on va vous en parler sous cet angle-là, s'interrogeant tout particulièrement sur la question de la démocratie. Monsieur Legros est professeur émérite aux universités libres de Bruxelles et à l'université de Caen. Il s'intéresse beaucoup à la philosophie politique et à la philosophie moderne. Et alors, je vous cite rapidement les titres de ses principales publications. Le jeune Hegel et la naissance de la pensée romantique, l'idée d'humanité, l'avènement de la démocratie, la souveraineté, la naissance de l'individu dans l'art et l'humanité éprouvée qui va paraître prochainement. Voilà, je lui cède immédiatement la parole pour intervenir sur Tocqueville.
Voilà, je vous remercie. On vous remercie pour votre invitation à venir parler de Tocqueville, qui est un auteur qui a été longtemps méprisé ou ignoré dans le public francophone et qui est aujourd'hui reconnu depuis les années 80, depuis les années 1980, qui est reconnu comme un des grands penseurs de la démocratie. Grand penseur de la démocratie qui a introduit une manière très nouvelle d'aborder les questions de politique. Pour y introduire, il faut, à mon sens, d'abord souligner la novation, une des novations centrales de Tocqueville, c'est d'avoir réintroduit dans le domaine de la philosophie politique la notion de régime au sens alors, qui avait été celui dans la philosophie grecque du terme de politeia, hein, vous savez que la République de Platon s'appelait politeia, qu'on a traduit par République, mais en fait le sens c'est régime, mais régime non pas au sens de la science politique, mais au sens que ce terme a pris, notamment grâce à Tocqueville, dans l'expression ancien régime. L'ancien régime n'est pas seulement une constitution au sens étroit du terme, mais cela désigne tout un ensemble d'attitudes qui caractérisent précisément une sorte de mode de vivre ensemble. Dans l'ancien régime, il y a non seulement un type de constitution politique, mais il y a aussi une attitude envers les ancêtres, une attitude envers la mort, une attitude envers l'éducation, une attitude envers l'art. Il y a tout un ensemble d'attitudes qui sont caractéristiques de l'ancien régime. Et Tocqueville a précisément assisté à ce passage qu'il a fortement marqué, le passage de ce qu'il a appelé l'ancien régime, l'expression était tout à fait nouvelle, à un nouveau régime, c'est-à-dire ce qu'il appelle aussi l'aristocratie, passage à la démocratie. Il y a donc, dans le passage de l'aristocratie à la démocratie, le passage d'un ancien régime à un nouveau régime. Ça, c'est une idée tout à fait centrale qui court dans toute l'œuvre de Tocqueville et qui est reprise par la philosophie politique aujourd'hui, à savoir que la démocratie ne doit pas être entendue seulement ou simplement au sens de la science politique, comme une constitution dans laquelle, par exemple, il y a séparation des pouvoirs, il y a indépendance de la justice, il y a égalité, etc., un ensemble de principes de la constitution, mais c'est aussi une nouvelle manière de se rapporter au monde, selon l'expression qu'on utilise volontiers en phénoménologie, l'homme comme être au monde, c'est un nouveau rapport au monde, c'est une nouvelle expérience du monde, c'est une nouvelle compréhension du monde. Je disais que par là, Tocqueville renouait avec la notion de politéia, puisqu'en effet, d'après Platon, une politéia, c'est bien cela, c'est-à-dire toute une compréhension du monde, toute une expérience du monde qui caractérise un mode du vivre ensemble. Alors, Platon, pour sa part, distinguait, par exemple, entre l'aristocratie, qui d'après lui est le meilleur régime, et d'autre part, par exemple, la timocratie, qui est plutôt le régime de Sparte, dans lequel les militaires sont au pouvoir, ou la ploutocratie, qui est un régime dans lequel ce sont les plus riches qui dominent et qui dirigent la société. Donc il y avait différentes politéia, en grec au pluriel il faudrait dire politeiai, il y a différentes politeiai auxquelles correspondent, d'après Platon, à chaque politeia correspond un type d'homme. C'est une grande thèse de la République de Platon. Il y a différents types d'hommes. Il y a l'homme aristocratique, il y a l'homme timocratique, c'est le spartiate, si vous voulez, l'homme ploutocratique, l'homme tyrannique, etc. Il y a différents types d'hommes. Par exemple, quand on dit type d'homme, on ne dit pas simplement des hommes qui s'intéressent à un type de constitution. Vous connaissez ce qu'on dit sur les spartiates. Aux yeux d'un spartiate, il est essentiel, par exemple, pour un homme, de cultiver le courage, de cultiver l'amour de la patrie, de cultiver la défense des militaires comme ceux qui sont le mieux à même de défendre la cité, etc. Il y a toute une psychologie spartiate. Vous connaissez l'anecdote de la mère qui vient demander des nouvelles d'un combat que menait Sparte, et on lui dit vos cinq enfants sont morts dans la guerre. Elle dit mais qui l'a emporté? C'est Sparte. Ah, pourquoi ne me donnez-vous pas tout de suite la bonne nouvelle? Je me réjouis de cette bonne nouvelle. Donc ça, c'est la mère spartiate, la patrie avant tout. Et donc l'éducation, qu'est-ce que ça devrait être? Ça devrait être former les jeunes, surtout par des exercices sportifs qui préparent à l'armée, etc. Tout autre est l'homme ploutocratique qui estime que ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est de pouvoir gagner de l'argent et qui va estimer toute chose en termes d'argent. Et donc, il y a plusieurs types d'hommes qui correspondent à différents modes de vivre ensemble. C'est ce que Platon appelait les différentes politeia. Et Tocqueville renoue avec cette idée à travers la notion de régime. Mais alors, comme vous le voyez, se pose d'emblée une question. Si la philosophie politique devra décrire ces différents régimes, mais aussi présenter des arguments qui montrent quel est le meilleur régime. Et si on se pose la question quel est le meilleur régime et qu'à chaque régime correspond un type d'homme, on risque d'être enfermé dans un cercle, parce que si on demande à l'homme de Sparte quel est le meilleur régime, il va dire évidemment le meilleur c'est la démocratie. Si on demande à l'homme ploutocratique, il va dire c'est la ploutocratie. Si on demande à l'homme aristocratique, il va dire c'est l'aristocratie. Si un régime, c'est une manière même de se rapporter au monde, c'est une expérience du monde, c'est une compréhension du monde, chaque type d'homme auquel correspond un régime dira que le meilleur régime est celui qui lui correspond. D'où la grande finesse de Platon est précisément de dire, dans sa philosophie politique, on est confronté à une grande difficulté qui va être de savoir comment déterminer quel est le meilleur régime, étant donné que je ne peux pas dire le meilleur, c'est celui qui est le régime aristocratique, parce que j'ai été formé par l'aristocratie ou parce que je me sens un homme aristocratique. Alors, Platon a surmonté cette difficulté de deux manières. Dans un premier temps, on peut dire qu'il peut y avoir une critique interne. Platon a ainsi montré que dans la tyrannie, par exemple, eh bien la tyrannie a comme principe le bonheur de chacun, mais au sens plus précisément où le plus heureux des hommes devra être le tyran. Le tyran étant celui qui vise son propre bonheur au détriment de ses concitoyens. Eh bien, Platon dit, dans une critique interne, vous verrez que le tyran sera le plus malheureux des hommes. Alors, il y a toute une argumentation de Platon pour montrer que le tyran sera toujours malheureux, parce qu'il devra toujours penser à se protéger, il y aura toujours des ennemis, il ne pourra pas passer son temps à rechercher le bonheur, mais il sera toujours confronté à toutes sortes de difficultés. Ça, c'est une critique interne. Et puis, alors, il y a une critique externe qui consiste à dire, moi, philosophe, je peux voir dans le ciel des idées, par ma réflexion, que l'aristocratie, c'est ce qui correspond au mieux à ce qui est juste. Alors, si on en revient à Tocqueville, Tocqueville n'est pas platonicien. Donc, il n'oppose pas un monde intelligible que le philosophe peut contempler et se mettre ainsi au-dessus de la mêlée. Moi, je vois le vrai. Moi, je vois le juste. Et au nom de ma propre vision, je peux dire ce qui est vrai et juste. Ça, c'est une perspective platonicienne que Tocqueville refuse. Par conséquent, il lui reste la critique interne. Mais d'un autre côté, il va falloir montrer, ça c'est la grande thèse de Tocqueville, que la démocratie est plus juste que l'aristocratie. C'est-à-dire le nouveau régime qui se met en place avec la Révolution française est plus juste que l'aristocratie. Alors évidemment, on va voir que c'est une thèse extrêmement difficile à soutenir d'un point de vue philosophique. Parce que l'aristocrate pourra toujours dire non, l'aristocratie est un meilleur régime parce que c'est un régime dans lequel, et puis il décrit ce qu'est pour lui l'aristocratie et ce qui fait à ses yeux la grandeur de l'aristocratie. Donc pour Tocqueville, il y a deux types de régimes, l'aristocratie, l'ancien régime, et puis ce qui se met en place avec la Révolution française, qui est le régime démocratique. Alors la période moderne, c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement la période moderne chez les historiens, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e, cette période moderne entre la Renaissance et la Révolution française est aux yeux de Tocqueville une période de transition. C'est une période dans laquelle on n'est plus vraiment en aristocratie, mais on n'a pas encore inventé la démocratie. Donc, ce qu'il va appeler la révolution démocratique, c'est une immense mutation qui commence à la fin du Moyen-Âge et qui conduit à la transformation de l'État d'ancien régime à l'État de nouveau régime, à l'État dit démocratique, mais qui se poursuit par la suite. C'est une mutation qui ne cesse de produire de nouveaux effets et qui ne cesse de produire de nouveaux effets encore aujourd'hui. La mutation se poursuit aussi après Tocqueville. Alors avant de poursuivre, disons qu'on peut reprendre cette distinction entre aristocratie et démocratie comme étant les deux grandes formes de vivre ensemble qu'a connue l'humanité, on peut dire dans toute son histoire, à condition d'ajouter qu'il y a eu précédemment à l'aristocratie un autre mode de vivre ensemble, un autre régime que Tocqueville n'a pas soupçonné et qui a été développé par les ethnologues comme le régime archaïque. Dans les sociétés archaïques, il s'agit d'un autre mode de vivre ensemble que dans la société aristocratique. Dans la société archaïque, comme l'a souligné par exemple Claude Lévi-Strauss, et puis un autre ethnologue qui s'appelle Pierre Clastres, dans ces sociétés archaïques, il n'y a pas d'État. Donc c'est un tout autre mode de vie. Il n'y a pas d'État, et ce qui permet de structurer le vivre ensemble, c'est plutôt la croyance religieuse. Il n'y a pas d'État, ou plus précisément, selon une expression de Pierre Clastres, ce sont des sociétés contre l'État. Une expression assez paradoxale, qui signifie que ces sociétés s'organisent de manière à empêcher l'émergence de l'État, c'est-à-dire à empêcher l'émergence d'un pouvoir coercitif. Un pouvoir coercitif, c'est un pouvoir dans lequel une autorité a le droit d'imposer l'ordre qu'il donne. Dans la société archaïque, il n'y a pas de pouvoir coercitif. Personne ne détient un pouvoir de faire exécuter l'ordre qu'il donne, sauf exception en période de guerre, ce qu'on appelle les chefs de guerre, mais dès que la guerre est finie, le chef rentre sur un pied d'égalité avec les autres par tout un ensemble de mécanismes sociaux qui font qu'il ne peut pas se maintenir comme chef. Et donc ce sont des sociétés qui sont, on pourrait dire, égalitaires, mais au prix d'une soumission intégrale à la religion. Autrefois, nos ancêtres nous ont dit comment il fallait vivre, et nos ancêtres savaient comment il fallait les vivre, parce qu'eux-mêmes vivaient en compagnie de héros surnaturels, que nous appelons des dieux, que nous avons tendance à appeler des dieux, mais qui ne sont pas tout à fait des dieux au sens où nous l'entendons habituellement. Parce que ce sont des dieux auxquels il n'y a pas un culte qui est organisé. Enfin, peu importe, le fait est que il y a une totale soumission à des principes de religion, et aucun être humain n'a un pouvoir coercitif qu'il peut exercer sur d'autres. Voilà un type de vivre ensemble, donc, que Tocqueville n'a pas connu. Est venue ensuite l'aristocratie, ça se situe vers le 4e millénaire. Donc si on reparcourt l'histoire de l'humanité, on a les sociétés archaïques, qui, quand on y réfléchit, ont été les sociétés qui ont vécu sur la plus longue période historique que l'humanité ait connue. Aussi loin qu'on remonte, qu'il s'agisse de Sapiens à l'époque de l'art pariétal du néolithique supérieur, ou qu'il s'agisse même de types d'humanité qui ont précédé Sapiens, donc on peut remonter à l'homme de Néandertal. On a toutes les raisons de penser que leur mode de vie était un mode qui était celle des sociétés archaïques et qui était étranger à la formation d'un État. Ça a donc pu durer de peut-être plusieurs centaines de milliers d'années. Et puis vers le 4e siècle avant Jésus-Christ, transformation colossale dans l'histoire de l'humanité, l'État apparaît, et si on suit bien les analyses de Pierre Clastres, dans son livre qui s'appelle « La société contre l'État », si on suit bien les analyses de Pierre Clastres, ce qui est intéressant, c'est que l'État est apparu parce qu'un mécanisme a mal fonctionné. Parce que le mécanisme qui empêchait la naissance d'un pouvoir coercitif n'a pas fonctionné. Et il s'est fait qu'à un moment, si on simplifie, disons que quelqu'un a dit « Je suis comme les héros d'autrefois, je vous impose de vivre ainsi » et on l'a cru. Et du coup, il est devenu comme Dieu, c'est le Pharaon. Il est devenu comme Dieu, il peut nous dire comment on doit vivre, parce qu'il a lui-même été en relation avec le héros d'autrefois. Et donc c'est une grande mutation qui s'est passée, on la suit bien en Égypte, mais également en Mésopotamie, qui s'est passée vers le 4e millénaire. En même temps qu'il y a naissance de l'État, il y a naissance des classes sociales, parce que celui qui dit « vous devez m'obéir » se fait assister de toute une classe qui transmet ses ordres, et puis il y a ceux qui sont obligés d'obéir, et donc une division entre l'État et la société, qui remonte au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Apparition des classes sociales qu'il n'y a pas dans la société archaïque. Dans la société archaïque, quand on dit « nous », c'est « nous, membres de la tribu ». Dans la société aristocratique, quand on dit « nous », c'est soit ceux qui dirigent, soit ceux qui obéissent. Et en même temps, on s'aperçoit de la naissance de quelque chose de très nouveau, c'est la naissance du concept d'homme. La société archaïque ne connaît pas le concept d'humanité. C'est quelque chose qui, évidemment, est extrêmement troublant pour nous, parce que ça nous est tellement évident qu'un être humain est un être humain, que nous comprenons avec difficulté que l'on puisse vivre dans une société dans laquelle il n'y a même pas un concept d'homme. Il y a nous, sous-entendu membres de notre tribu, et puis les autres, mais les autres, ce ne sont pas les autres hommes, puisque puisque le concept d'homme n'existe pas. Les autres, ce sont ceux qui vivent autrement. Cela comprend des animaux, ça comprend toutes sortes d'êtres qui vivent autrement que nous et qui nous sont inférieurs. Et donc il y a bien une hiérarchie, mais entre nous et les autres. Autrement dit, la hiérarchie est uniquement externe. Il y a nous et puis les autres. Comme dit Lévi-Strauss, pour dire que les autres sont inférieurs, on leur donne de vilains noms, on dit les pucerons. Ça, ce sont les autres. Mais il n'y a pas un concept qui englobe tous les hommes dans la société archaïque. Il y a les autres qui nous sont inférieurs, et puis il y a les héros d'autrefois qui nous sont supérieurs. Et donc la hiérarchie, c'est les héros d'autrefois, nous, les autres. C'est une hiérarchie externe. Nous, membres de la tribu, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux, et puis il y a ceux qui sont supérieurs, les héros d'autrefois, ceux qui sont inférieurs, les autres. Les autres en général. Naissance de la société aristocratique, ça veut dire naissance d'une hiérarchie interne. Parmi nous, il y a les supérieurs et les inférieurs. Parmi nous, les supérieurs, ce sont ceux qui sont le plus proches de ce que dorénavant on appelle les dieux. Et ceux qui nous sont inférieurs, c'est non seulement les autres, mais ceux qui sont inférieurs à ceux qui dirigent. La hiérarchie est également interne. Ça, c'est sans doute une des plus grandes mutations de l'histoire de l'humanité. Parce que ce nouveau, je veux dire ce nouveau régime, mais c'est-à-dire ce qui est pour nous l'ancien régime, ce régime aristocratique, il a donc duré Il a pris naissance en Égypte au 4e millénaire et il a duré jusqu'en 1789. Pour la France, quelques années plus tôt, avec la Révolution américaine. Et c'est à ce moment-là donc qu'il y a eu à la fois une transformation, une mutation bouleversante. On ne va plus vivre selon les principes de l'aristocratie. Donc si on retrace l'histoire de l'humanité, on pourrait dire qu'il y a eu deux mutations complètes. La naissance de l'État, 4e millénaire avant Jésus-Christ, et puis la révolution démocratique. Alors, comment décrire cette mutation? Tocqueville parle de principe générateur du vivre ensemble. Il y a des principes générateurs. Il y a des principes générateurs de l'aristocratie, les principes générateurs de la démocratie. Alors, disons-le d'emblée, avant d'expliciter, hein, parce que vous verrez, c'est assez complexe, les principes générateurs de la démocratie, c'est essentiellement le principe d'égalité, d'égalité des conditions, dit Tocqueville, le principe d'autonomie et le principe d'indépendance individuelle. Ce sont les trois principes qui vont transformer la société et produire un nouveau type d'homme. Ce qui nous entraîne, bien entendu, dans une grande difficulté, parce que si ce sont ces principes qui sont au fondement d'un nouveau type d'homme, cela veut dire que ce n'est pas l'homme qui est à l'origine de ces principes. Bien entendu, puisque en aristocratie, on vit sous trois autres principes, non pas sur le principe d'égalité, mais le principe hiérarchique, non pas le principe d'autonomie, mais le principe d'hétéronomie, et non pas le principe d'indépendance individuelle, mais le principe communautaire. Donc, trois autres principes qui sont au fondement de l'homme aristocratique. Alors, on peut dire que dans la philosophie de Tocqueville, la plus grande place est consacrée à l'explicitation de ce que peut être le principe d'égalité et le principe hiérarchique, le principe d'autonomie et le principe d'hétéronomie, le principe communautaire et le principe d'indépendance individuelle. C'est la transformation, c'est le passage de principes aristocratiques aux principes démocratiques qui bouleverse l'humanité. Et donc, en un sens, et c'est ce qui fait la profondeur sans doute de la philosophie politique de Tocqueville, en un sens, nous sommes les produits d'une transformation des principes du vivre ensemble, plus que nous-mêmes, nous sommes à l'origine de ces principes. Alors, avant de revenir sur cette question, essayons d'expliciter un peu ce qu'est d'abord le principe hiérarchique. Hiérarchie vient de hiéros, arché, hiéros, le sacré, arché, le commandement ou le commencement. Donc, cela veut dire, au commencement, ce qui nous commande, c'est le sacré. C'est le principe hiérarchique. Alors, pour bien comprendre le principe hiérarchique, ou ce que signifie le principe hiérarchique dans une société aristocratique, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que le principe hiérarchique ne signifie pas ce qu'il signifie pour nous dans la société démocratique. Parce que pour nous, dans la société démocratique, il y a bien des hiérarchies. Puisqu'il y a État, donc quelqu'un peut imposer un ordre. L'agent de police, par exemple, peut vous dire « Ne vous garez pas là, circulez. Vous devez obéir. » Donc c'est qu'il y a une hiérarchie qui lui autorise à donner un ordre. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en démocratie, cette hiérarchie, elle est conférée à l'agent de police par une loi qui est décidée sur un pied d'égalité par nos représentants. Et cette hiérarchie n'est accordée à l'agent de police que pendant ses fonctions de policier. Quand il est en vacances, il ne peut pas donner un ordre. Par conséquent, sa supériorité n'est pas naturelle. C'est une supériorité qui lui est conférée par la loi dans le cadre de ses fonctions. En aristocratie, la hiérarchie est, disons, naturelle. C'est-à-dire que le supérieur hiérarchique est naturellement supérieur. Il l'est dans son être même. Alors, ce qui complique les choses, c'est que la hiérarchie est naturelle, mais en même temps, elle est surnaturelle. Et ici, naturel et surnaturel se renforcent l'un l'autre. Naturel, ça veut dire, ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de cette distinction, c'est la nature. Surnaturel, ça veut dire, cela vient de plus haut que nous. C'est surnaturel. C'est pas nous qui avons décidé, donc c'est naturel, mais c'est surnaturel parce que ça vient de plus haut que nous. Alors, comment faire comprendre cela, qu'une hiérarchie soit naturelle? Parce que, à nos yeux, il est évident que toute hiérarchie est artificielle. Comment se mettre dans l'esprit de l'homme aristocratique pour concevoir qu'une hiérarchie puisse être naturelle? Alors, dans la hiérarchie naturelle, il y a donc une distinction naturelle qui implique une distinction dans les attitudes. Alors, il nous reste une trace de cela dans la distinction homme-femme. Dans la mesure où on peut dire que il y a une différence d'attitude entre l'homme et la femme, alors qu'il y a une différence naturelle entre l'homme et la femme. Mais remarquez qu'il s'agit là d'une interprétation qu'un certain féminisme a considérée comme aristocratique. Par exemple, Simone de Beauvoir, dans le féminisme Simone de Beauvoir, on dit « on ne naît pas femme, on le devient ». On refuse la distinction naturelle. La distinction homme-femme n'est pas naturelle. Elle est choisie par l'individu. Ça, c'est une interprétation démocratique, au fond, qui prend au pied de la lettre la mutation démocratique pour interpréter la distinction homme-femme. Mais nous comprenons ce qu'on veut dire quand on veut dire qu'un homme a une tendance à avoir une attitude virile en raison du fait que c'est un homme, et une femme à avoir une attitude féminine en raison du fait que c'est une femme. Hein, donc, je dis, on peut prendre cet exemple-là pour comprendre, même si, comme Simone de Beauvoir, on n'est pas d'accord. Hein, on peut ne pas être d'accord, on comprend. On comprend qu'une femme se veuille féminine et qu'un homme se veuille viril. Mais c'est une des seules traces qui nous reste où une distinction naturelle implique une distinction dans les attitudes. Nous refuserions, par exemple, de dire un noir a une autre attitude que le blanc parce qu'il est noir et le blanc est blanc. Ça serait du racisme. Dans la distinction homme-femme, il nous reste quelque chose d'une distinction naturelle qui implique une distinction dans les attitudes. D'autre part, on peut aussi comprendre la hiérarchie si on comprend le bourgeois gentilhomme de Molière. Parce que, curieusement, le bourgeois gentilhomme de Molière, c'est une pièce qui repose intégralement sur une interprétation aristocratique. Elle consiste à dire, quelqu'un qui est bourgeois, s'il se dit gentilhomme, c'est contre sa nature, donc il ne sera gentilhomme que de manière artificielle, que de manière gauche, il ne sera pas naturellement aristocrate. Et donc, le bourgeois qui se prend pour un gentilhomme sera ridicule. Ça, c'est une interprétation aristocratique. Il est bourgeois, il est de naissance. Il doit l'être dans ses attitudes, dans ses manières d'être, dans ses manières de penser. Il ne peut pas se prendre pour un aristocrate. Il sera ridicule, puisqu'il ne l'est pas par nature. Enfin, une fois que la distinction de classe devient naturelle, le bourgeois gentilhomme devient ridicule. Et alors, il y a une troisième approche qui nous permet de comprendre le principe aristocratique. On établit une distinction entre supérieur et inférieur sur la base d'une distinction naturelle. Ça nous est, je le disais, tout à fait étranger. Mais il nous reste un exemple qui nous permet de le comprendre. C'est l'exemple parent-enfant. Dans la distinction entre parents et enfants, nous admettons que l'un puisse donner des ordres à l'autre, puisse diriger la vie de l'autre, c'est-à-dire de l'enfant, en raison d'une distinction naturelle. Il y a les parents, il y a les enfants. Alors cet exemple est assez éclairant pour comprendre l'aristocratie, parce que quand il s'agit de la distinction parent-enfant, il ne nous viendrait pas à l'esprit de dire « les parents peuvent diriger parce que ce sont les plus forts ». Bon, ça serait une interprétation assez absurde de l'autorité des parents. Ils sont les plus forts, certes, mais ce n'est pas parce qu'ils sont les plus forts qu'ils ont le droit de diriger. Donc il faut dire la même chose pour la hiérarchie aristocratique. Elle est vécue exactement de la même manière que nous voyons la distinction parent-enfant. C'est-à-dire, il y en a qui sont plus forts. Par exemple, Louis XIV et toute son armée étaient plus forts que le paysan. Mais ce qui lui donne le droit de commander au paysan, c'est pas qu'il soit plus fort. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui imprègne tellement encore la société du XVIIe siècle que Louis XIV pouvait vivre à Versailles autour de 20 millions de personnes qui étaient plus ou moins affamées, à savoir 20 millions de paysans. Il était entouré de 20 millions de paysans qui grattaient la terre toute la journée pour ne même pas manger à leur faim. Et autour de Versailles, il n'y avait quasiment pas de militaires. Et Versailles déployait toute sa richesse, montrait ses nobles. Louis XIV pouvait se promener dans les villages. Non, on ne disait pas de quel droit nous donne-t-il des ordres, celui-là? Il y avait un principe hiérarchique qui était encore reconnu comme légitime. Et au fond, il faut aujourd'hui presque plus de protection quand un chef d'État se déplace qu'à l'époque de Louis XIV. Donc, si dans le principe hiérarchique, le supérieur peut donner des ordres, c'est pas parce qu'il est le plus fort, et ce n'est pas non plus, ça c'est très intéressant aussi, ce n'est pas non plus en raison du consentement de l'inférieur. Parce que nous ne dirions pas, les enfants, on peut leur donner des ordres pourvu qu'ils y consentent. Parce que certes, l'enfant, heureusement dans la majorité des cas, reconnaît qu'il doit obéir à ses parents. Mais c'est pas parce que l'enfant le reconnaît que les parents ont le droit. C'est pas ça qui est le fondement du droit des parents de diriger les enfants. C'est pas parce que les enfants sont d'accord, même s'ils sont pas d'accord, on dira le parent a le droit de diriger ses enfants. C'était la même chose dans la société aristocratique. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier. Parce que du fait qu'on est formé par la démocratie, on a tendance à penser que dans la société aristocratique, s'il y en a qui dirigent et d'autres qui obéissent, c'est soit parce que ceux qui dirigent ont la force. C'est par exemple l'interprétation de Marx. Ceux qui dirigent, ce sont ceux qui ont pris le pouvoir et qui ont l'armée avec eux. Ils sont les plus forts, donc ils s'imposent. Ou bien on dira, oui, dans la société aristocratique, ceux qui dirigent le font parce qu'il y a un consentement. Hein, comme disait la Boétie, la servitude est volontaire. Il y a une servitude volontaire. Les gens acceptent qui est des supérieurs. Eh bien non, je crois qu'il faut résister à ces deux interprétations. À l'interprétation d'après laquelle le supérieur dirige en aristocratie parce qu'il est le plus fort, ou bien est en droit de diriger parce qu'il y a consentement des inférieurs. Il faut comprendre qu'il dirige exactement comme les parents dirigent les enfants. Ça c'est le principe hiérarchique. Et remarquez que, quand je disais tout à l'heure que la démocratie ne cesse de se poursuivre, emportés que nous sommes par les principes démocratiques, il arrive qu'on mette en question l'autorité des parents. Parce que l'idée même de hiérarchie devient insupportable à l'homme démocratique, et par conséquent, on dit, mais de quel droit est-ce que les parents pourraient diriger ? Soyons à l'écoute des enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir selon leurs propres aspirations. Chaque régime est en quelque sorte au fondement d'un type d'humanité, là on rejoint Platon, parce que dans chacun des régimes, qu'ils soient aristocratiques ou démocratiques, il y a un ensemble d'attitudes qui se développent et qui deviennent habituelles, qui sont en quelque sorte naturelles, des manières de penser, des manières d'agir, des manières de sentir. Par exemple, prenons les manières de penser dans la société aristocratique, mais pensez surtout à la société médiévale, puisque je disais tout à l'heure, la société moderne commence à être à cheval entre l'aristocratie et la démocratie. Mais dans la société qui est purement aristocratique comme la société féodale, ça c'est le type même de la société aristocratique, l'argument d'autorité est considéré comme un argument fort, comme un bon argument. Il a fallu Descartes pour que l'argument d'autorité soit fondamentalement mis en question. Et puis aujourd'hui, je dirais tout enfant, adolescent, sait bien que l'argument d'autorité est un argument très faible. Mais au Moyen-Âge, quand on disait à une jeune fille « Ton père souhaite que tu te maries avec un tel », se marier avec la personne que désignait le père. Parce que l'argument d'autorité s'imposait. On sait qu'au XVIIe siècle, par Molière, à nouveau, là, ici, on sait que tout d'un coup, le père a une autorité qui vacille. On estime que ce n'est pas à lui de choisir le mari de sa fille. Et dans les pièces de Molière, la jeune fille se confie à la femme de ménage en disant « Mon Dieu, mon père veut que je me marie avec un tel, mais je préfère un tel, etc. » Bon, il y a toute une comédie qui tourne autour de cela. Mais au Moyen-Âge, l'argument d'autorité est un argument fort, que personne ne remet en question. Dans les manières d'agir, dans l'aristocratie, il y a des manières d'agir, par exemple, des cérémonies et des rites qui scandent la vie journalière. Alors que l'homme démocratique se prête difficilement aux cérémonies et aux rites, en raison du principe d'égalité et du principe d'autonomie, surtout. Puisque nous sommes autonomes, chacun pense par lui-même. On met en question le principe d'autorité, donc je ne me soumets pas à des cérémonies, et si je me soumets à une cérémonie, je sais parfaitement que cette cérémonie est une mise en scène organisée par des êtres humains. Ce n'était pas du tout le cas au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le supérieur hiérarchique apparaissait dans un faste, dans des cérémonies, qui étaient considérées directement comme l'expression du fait qu'il est plus proche du divin que le commun des mortels. Et donc la cérémonie était l'expression de lois qui viennent de plus haut que nous. sur ce point, on pourrait encore prendre l'exemple de Louis XIV. Hein, vous savez que à Versailles, à quel point il y avait des cérémonies. Mais alors, on peut aussi montrer que déjà à Versailles, on n'est plus tout à fait en aristocratie, parce que à l'époque de Louis XIV, il y a la conscience, malgré tout, que ces cérémonies sont d'origine humaine. Ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge. Et que la cérémonie soit d'origine humaine, à Versailles, on peut dire que c'est typique de la pensée baroque. Versailles est un mode de vie baroque, disons, parce qu'on y met toutes sortes de cérémonies, ont lieu toutes sortes de rites, mais dont on sait bien qu'elles sont organisées par les hommes. Elles ne sont pas d'origine humaine. Hein, vous savez qu'à Versailles, il y avait tellement de cérémonies et de rites que Louis XIV, apprenant que le grand Turc va venir lui rendre visite, organise les cérémonies, et donc un tapis rouge est déroulé de Marseille à Versailles, avec les guirlandes, toutes les décorations pour le grand Turc qui devait venir jusque Versailles. Puis à Versailles, il devait être reçu dans le fameux Salon des Glaces, et c'est là que Louis XIV prenait la parole. Parce qu'il estimait que le grand Turc était la plus grande autorité au monde après lui. Et voilà que celui qui était reçu prend la parole et dit je prends la parole au nom du grand Turc. Alors, exactement comme dans un opéra ou là où il y a beaucoup de cérémonies, quelqu'un ne respecte pas ce qui était prévu, on reste sans voix. Louis XIV est resté sans voix. Parce que pour lui, c'était une insulte invraisemblable que lui faisait le grand Turc. Il n'a pas daigné venir en personne. Et donc Louis XIV, comme vous le savez, a demandé à Molière, faites-moi une pièce pour ridiculiser le grand Turc. C'est l'origine du bourgeois gentilhomme. Il y a une autre anecdote qu'on peut raconter, c'est qu'il y a deux membres venant d'Asie qui sont venus pour exprimer leur respect devant Louis XIV, et dans leur pays où régnait aussi l'aristocratie, ces deux membres ne pouvaient pas regarder le seigneur, parce que le simple fait de regarder était déjà une sorte d'égalisation. On devait se courber et ne pas regarder le supérieur, de sorte ils viennent, ils continuent de regarder par terre, Louis XIV les reçoit, et Louis XIV a ce geste de dire, ils viennent de si loin qu'ils peuvent me regarder. Et donc, ils ont timidement levé la tête. Donc, vous voyez, à quel point il y avait des rites, mais, je le répète, du temps de Louis XIV, il y a la conscience que ces rites, finalement, ont une origine humaine. Et alors, il y a donc tout un ensemble de rites, et comme je disais, la démocratie se poursuit encore de nos jours. On peut voir que de nos jours, il y a de moins en moins de formes. Hein, on pourrait, à cet égard, rappeler mai 68, qui était une démocratisation qui s'emballe, on pourrait dire qui s'emballe, et qui vise à rejeter toutes les formes. Il n'y a plus de forme, on s'assied par terre. La forme est perçue comme presque opposée à l'autonomie. Et alors, il y a aussi une transformation non seulement dans les manières de penser et d'agir, mais aussi de sentir, que Tocqueville a fortement mis en lumière, en montrant qu'avec la démocratie, la notion même de pitié a pris un sens tout à fait nouveau. Qu'est-ce que c'est que la pitié? C'est la souffrance que j'éprouve moi-même dans mon propre corps à la vue de la souffrance d'autrui. Dans la société aristocratique, il y a une telle séparation entre les classes que la vue de la souffrance de mon semblable, c'est la vue de la souffrance de celui qui appartient à ma classe. Et non pas la vue de la souffrance de celui qui est d'une classe inférieure, ou supérieure d'ailleurs. Alors qu'en démocratie, la souffrance à la vue du semblable devient une souffrance à la vue d'un autre être humain, qui qu'il soit. C'est ce que Tocqueville appelle la compassion universelle. Il donne toute une série d'exemples dans son ouvrage sur la démocratie. Il donne tout un ensemble d'exemples. Il dit encore, prenons le cas des Romains, un Romain n'aurait pas supporté l'idée même d'un Romain mis en croix. Mais un non-Romain pouvait être mis en croix. Donc, même dans la peine de mort, un Romain n'était jamais mis en croix quand il était condamné à mort. Un étranger pouvait être mis en croix. Un autre exemple de l'époque des Romains que donne Tocqueville, c'est Cicéron qui, dit Tocqueville, pousse des gémissements à l'idée, justement, d'un Cicéron lui-même, d'un Romain mis en croix, mais n'a pas un mot pour se rebeller contre les jeux du cirque dans lesquels on offrait des êtres humains à des lions et on les offrait comme gladiateurs. Il n'y a pas un mot de Cicéron pour dire il y a là quelque chose qui me heurte. Ce qui est très étrange parce que Cicéron est pourtant un philosophe qui se revendique, pourrait-on penser, d'un certain humanisme. Par son stoïcisme, il considère qu'effectivement il y a tous les hommes. Eh bien, le régime façonne à ce point nos manières de sentir que quelqu'un comme Cicéron n'a rien à redire contre les jeux du cirque. L'autre exemple que prend Tocqueville, un des nombreux autres exemples qu'il prend, c'est Madame de Lafayette, qui à cet égard-là est encore très aristocrate. Elle raconte dans une lettre à sa fille que sur la route, elle a vu un ensemble de pendus. Et elle raconte à sa fille, nous nous sommes amusés à nous demander pourquoi ces êtres étaient pendus. Eh bien, ils étaient pendus parce qu'ils avaient refusé de payer l'impôt. Eh bien, on a bien fait, dit-elle, de faire comprendre à ces êtres qu'il faut payer l'impôt. Et donc, ce sont des êtres qui ont été chassés de chez eux et qui, lorsqu'ils n'étaient pas pendus, ne pouvaient être recueillis nulle part et mouraient de faim. Et Madame de Lafayette s'en amuse. Et Tocqueville dit, aujourd'hui, quelqu'un tiendrait ces propos-là, des propos tels que le tient Madame de Lafayette, on dirait que c'est un monstre. Et c'est-à-dire que Madame de Lafayette était un monstre. Non, elle était formée par la société aristocratique. Elle était imprégné de l'idée que quelqu'un qui n'est pas de sa classe peut souffrir, mais c'est une souffrance que je ne peux pas ressentir, qui m'est étrangère. Donc, une transformation profonde de l'être humain. Et effectivement, on pourrait multiplier les exemples. Si on pense, par exemple, à la peine de mort, mais il y a eu la période dans laquelle elle était exécutée sur la place publique, avec toutes les tortures qu'on imagine, et où les gens pouvaient assister à cela sans être malades. Parce que même la personne qui, dans nos démocraties, est tout à fait pour la peine de mort, serait malade si elle devait assister aux tortures sur la place publique, telle qu'on l'a pratiquée encore au XVIIIe siècle. Elle ne résisterait pas. Or, au XVIIIe siècle, on y conduisait même ses enfants. Et on assistait à cela, ça me manchait. Puis il y a eu l'époque où, ça c'est dès la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, on exigeait que la peine de mort soit toujours exécutée, mais en cachette. C'est-à-dire, on ne peut pas le montrer, parce que c'est insupportable. C'est par exemple la position de Hegel, si on ne peut pas admettre la peine de mort en public, ça doit se faire dans la prison, avec certaines règles, etc. Et puis, il y a eu la période où la peine de mort elle-même était mise en question. Donc, vous voyez, le sentiment de pitié à l'égard de l'être humain, qui qu'il soit, en régime démocratique, on ne pourra pas admettre non plus la torture, y compris des ennemis, en raison de cette compassion universelle. En démocratie, dit Tocqueville, je souffre dans ma chair tandis qu'on déchire la chair de mon semblable. De mon semblable. Et quand on dit de mon semblable, ça veut dire de n'importe quel être humain. Alors qu'en aristocratie, la notion du semblable, alors j'allais dire n'existe pas, elle n'existait pas au sens démocratique, elle avait en tout cas un tout autre sens. Elle a commencé à prendre sens, comme vous le savez, avec le christianisme. Ou plus exactement, avec le monothéisme. Avec le monothéisme, il est dit en effet que autrui, dans un certain sens, est mon semblable, puisque nous sommes tous à la ressemblance de Dieu. Qui que nous soyons. Grand mystère d'ailleurs, c'est ça qui est beau. Ici, c'est que il y a à l'origine de cette phrase « Nous sommes tous à la ressemblance de Dieu », il y a comme un mystère. Un mystère parce que comment être à la ressemblance d'un être qui ne peut pas apparaître de manière sensible? Il est purement invisible. Nous sommes aussi, si nous sommes à la ressemblance de Dieu, c'est pas quelque chose qui est invisible en nous. C'est pas par notre corps, évidemment, que nous sommes à la ressemblance de Dieu, puisque Dieu n'a pas de corps. C'est par notre âme. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Mais il se fait, c'est un point que souligne Tocqueville, que dans la société aristocratique, on n'a jamais été fidèle au principe monothéiste. C'est une grande contradiction du Moyen-Âge. Autrui n'est pas mon semblable au point que celui qui n'est pas mon semblable peut être massacré, je n'en suis même pas touché. Et cependant, par ma foi monothéiste, je dois dire, nous sommes tous à la ressemblance de Dieu. Il y a là une contradiction. Il y a une contradiction ainsi dans tout régime aristocratique fondé sur le monothéisme. Alors, remarquez que le monothéisme présente, comme Tocqueville le dit, cette caractéristique troublante de considérer que tous les hommes sont frères, puisque nous sommes tous les descendants d'un même couple originel, et puisque nous sommes tous les enfants de Dieu, au sens où Dieu est Dieu le Père. S'il y a Dieu le Père, c'est parce que nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, les enfants d'un même Dieu. Donc nous sommes tous frères, donc tous semblables en tant que frères. Et cependant, c'est à partir du monothéisme qu'ont commencé les guerres de religion et qu'a commencé le prosélytisme. C'est un point qu'on oublie souvent, c'est que dans le polythéisme, il n'y a pas de guerre de religion. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de guerre de religion? Parce que dans le polythéisme, les dieux des autres étaient les dieux des autres. Certes inférieurs à nos dieux, mais des dieux quand même. On ne disait pas dans le polythéisme, qu'on connaît bien par la Grèce antique ou la Rome antique, on ne disait pas les dieux des autres sont de faux dieux. Lorsque César venait nous conquérir, je dis nous conquérir, venait dans la Gaule, il rendait hommage aux dieux des Gaulois. Il vaut toujours mieux être en bonne entente avec des dieux, même avec le dieu des autres. Même quand les empereurs romains ont conquis Israël, ils ont rendu hommage au Dieu des Juifs. Suprême contradiction, puisqu'en principe, le Dieu des Juifs est monothéiste. Et donc, pour le Dieu des Juifs, les dieux des Romains sont des faux dieux. Mais les Romains étaient tellement persuadés que chacun a ses dieux, qu'ils sont entrés dans le temple à Jérusalem pour rendre hommage au Dieu des Juifs. Et ils se sont dit, comme c'est curieux, c'est le Dieu des Juifs, on ne le voit pas. Et alors que nos dieux, c'est... Évidemment, chaque dieu a sa statue. Non. On peut faire la statue de Zeus, la statue de Poséidon, etc. Mais ils étaient étonnés que dans le temple des Juifs, il n'y ait pas la représentation de Dieu. Mais ils rendaient hommage au Dieu des autres. Donc, pas de guerre de religion. Si il y a guerre, elle n'est pas guerre de religion. Si les Romains s'en sont pris au christianisme, c'est pas parce que le christianisme est une religion. C'est parce que le christianisme était considéré comme une puissance qui contestait l'autorité des empereurs. Évidemment, qui contestait l'autorité des empereurs, puisque on disait l'homme n'a qu'un seul maître, c'est Dieu, même s'il faut rendre à César ce qui est à César. Mais c'était déjà trop. Donc, les Romains, d'une certaine manière, ont agi pour essayer d'éviter qu'on mette à mort le Christ. Mais non, ça ne s'est pas arrangé. Mais ils toléraient parfaitement qu'il y ait une autre religion. Si cette religion ne les contestait pas. Donc c'est un paradoxe du monothéisme. Nous sommes tolérants puisque nous considérons que tous les êtres humains sont nos frères, mais s'ils n'ont pas nos dieux, ce sont nos ennemis. Et donc nous devons les combattre parce qu'ils vénèrent de faux dieux. Aussi, grande transformation dans l'histoire de l'humanité, naissance des guerres de religion. Alors, je disais que le monde moderne est un monde de mutation dans lequel on passe de la société aristocratique à la société démocratique. Précisons que ce qui caractérise ce passage, c'est que au fond d'eux-mêmes, les hommes modernes, c'est-à-dire 16e, 17e puis 18e siècle, ne croient plus que le supérieur porte en lui une incarnation du divin. On continue d'affirmer que l'autorité est de droit divin, mais au fond de soi-même, on n'y croit plus. L'autorité n'est pas en elle-même divine. Donc on n'est plus aristocrate. Mais on n'est pas encore démocrate puisqu'on n'a pas encore inventé les principes de la démocratie. Le principe d'égalité des conditions, le principe d'autonomie, le principe d'indépendance individuelle restent impensables au XVIe siècle. Mais on ne croit plus au principe aristocratique, fondamentalement. Et dès lors, la philosophie politique est confrontée à une question abyssale. C'est précisément la question que pose le philosophe Hobbes. Comment légitimer l'autorité si elle n'est pas en elle-même fondée sur le divin ? Si le monarque n'est pas en lui-même une personne qui a plus de divinité en elle que le commun des mortels. Pourquoi est-ce que le monarque peut nous diriger alors que, à l'état de nature, nous sommes tous égaux? Ça, c'est la grande transformation. C'est qu'il y a un état de nature dans lequel nous sommes tous égaux. Et par conséquent, la hiérarchie, à un moment donné, s'est produite. S'est produite comment? Parce que les hommes l'ont inventée. Donc on n'est plus en aristocratie. Mais on n'a pas encore inventé la démocratie. Alors évidemment, Hobbes se trouve dans une situation apparemment impossible. Il se pose un problème apparemment insurmontable. Comment voulez-vous légitimer le fait qu'une autorité ait le pouvoir absolu si naturellement nous sommes tous égaux? Alors, Hobbes s'en sort par tout un raisonnement qui consiste à dire à l'état de nature, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous, en quelque sorte, semblables à des animaux. Mais nous sommes tous, fondamentalement, prisonniers par la peur de la mort. Pourquoi ? Parce que n'importe qui peut nous tuer, puisqu'il n'y a pas encore de loi. C'est l'état de nature. Par conséquent, nous avons intérêt à nous grouper et à donner à l'un d'entre nous toute la puissance requise pour empêcher que nous soyons mis à mort par le premier venu. Donc nous donnons toute notre puissance à ce qui va devenir un État qui est justifié à avoir toute la puissance pour empêcher la guerre de tous contre tous. Étant donné qu'elle est en nature, l'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est la réponse de Hobbes. C'est une première réponse à la perte des principes aristocratiques. Il y a une autre réponse qui sera celle de Rousseau. Mais avant de venir à Rousseau, je voudrais vous lire un extrait d'un auteur qui, au XVIIe siècle, est encore totalement imprégné du principe aristocratique. Et c'est Bossuet, qui représente, au XVIIe siècle, un auteur qui reste tout à fait imprégné des principes aristocratiques. Dans son livre « La politique tirée des propres paroles de l'écriture sainte », Bossuet érige le prince en une personne qui est naturellement supérieure aux autres êtres humains, donc qui est plus proche de la divinité, et donc une personne devant laquelle on doit s'incliner à la fois de corps et d'esprit. De corps et d'esprit, je veux dire, on doit s'incliner par son corps, mais tout en s'inclinant aussi en esprit. Je fais cette distinction parce que quelques années après, Fontenelle, qui lui réagit contre la pensée aristocratique, écrit « Devant un grand, je m'incline, mais mon esprit ne s'incline pas. » Autre étape. Et qu'est-ce que Bossuet précisément nous dit ? Je cite « Il y a donc quelque chose de religieux dans le respect qu'on rend au prince. » Le service de Dieu et le respect pour les rois sont choses unies, et Saint-Pierre met ensemble ces deux devoirs, craignez Dieu, honorez le roi. Aussi Dieu a-t-il mis dans les princes quelque chose de divin. Donc Bossuet, lui, il continue d'y croire. Dans le prince, il y a quelque chose de divin. Je n'appelle pas majesté cette pompe qui environne les rois ou cet éclat extérieur qui éblouit le vulgaire. C'est le rejaillissement de la majesté et non pas la majesté elle-même. La majesté est l'image de la grandeur de Dieu dans le prince. Dieu est infini, Dieu est tout. Le prince, en tant que prince, n'est pas regardé comme un homme particulier. C'est un personnage public. Tout l'État est en lui, la volonté de tout le peuple est renfermée dans la sienne, comme en Dieu est réunie toute perfection et toute vertu. Ainsi, toute la puissance des particuliers est réunie en la personne du prince. Quelle grandeur qu'un seul homme en contienne tant. Donc, il y a dans le prince quelque chose de divin. Ça, c'est vraiment, on pourrait dire, je ne pense pas que Tocqueville se soit intéressé à Bossuet, mais c'est vraiment l'expression de la pensée aristocratique pendant la période moderne. Remarquez que, au XVIIe siècle également, commence la contestation, je vous ai parlé de Hobbes, mais quant au principe, la contestation la plus radicale, elle est inattendue, elle vient de Pascal. Elle est inattendue parce que Pascal est un être à ce point religieux qu'on pensait que par sa religiosité, il serait relié plutôt au régime aristocratique. Eh bien, non, si vous avez l'occasion de lire les trois discours sur la condition des grands, de Pascal. Ce sont trois discours que Pascal adresse à des jeunes gens dont il est le précepteur. Ce sont les fils du duc de Leuhn. Je dis cela pour ceux qui ont lu la traduction du latin en français de Descartes. C'est une traduction qui est due au duc de Leuhn. Ce duc de Leuhn a demandé à Pascal, sois le précepteur de mes enfants. Et que dit Pascal, notamment dès le premier discours, il s'adresse à ces jeunes, nobles, et il leur raconte une histoire. Et voilà l'histoire. Un homme est jeté par la tempête dans une île inconnue dont les habitants étaient en peine de trouver leur roi qui s'était perdu. Et ayant beaucoup de ressemblances de corps et de visage avec ce roi, il est pris pour lui et reconnu en cette qualité par tout ce peuple. D'abord, il ne savait quel parti prendre, mais il résolut enfin de se prêter à sa bonne fortune. Il reçut tous les respects qu'on lui voulut rendre et il se laissa traiter de roi. Et que dit Pascal ? Eh bien, cette histoire, c'est l'histoire de tous les rois et de tous les nobles. On croit qu'ils sont rois, qu'ils sont nobles par nature. C'est purement par hasard qu'ils le sont. C'est le hasard des institutions humaines. Et ils n'ont rien de supérieur aux autres. Nous sommes tous égaux. De la manière dont c'est affirmé chez Pascal, c'est sans doute la manière la plus radicale qu'on affirme pour la première fois l'égalité de tous les êtres humains. Il précise ceci, la coutume de voir les rois accompagnés de gardes, de tambours, d'officiers, de toutes les choses qui ploient la machine vers le respect et la terreur, font que leur visage, quand il est quelquefois seul et sans cet accompagnement, imprime dans leur sujet le respect et la terreur, parce qu'on ne sépare point dans la pensée leur personne d'avec leur suite, qu'on y voit d'ordinaire. Et le monde qui ne sait pas que cet effet vient de cette coutume, croit qu'il vient d'une force naturelle. Ça, c'est vraiment la dénonciation de principe de régime aristocratique. Le monde croit que c'est une force naturelle, et de là viennent ces mots, le caractère de la divinité est empreint sur son visage, etc. Donc, on pourrait presque dire, c'est une réponse à Bossuet, seulement Pascal il a écrit ça avant Bossuet. Et après avoir raconté cette anecdote du roi qui s'est perdu dans un naufrage, et puis cette personne naufragée qui est revenue sur l'île et qu'on prend par erreur pour le roi, Pascal précise « Que s'ensuit-il de là ? Que vous devez avoir, vous qui êtes noble, que vous devez avoir, comme cet homme dont nous avons parlé, une double pensée. Et que si vous agissez extérieurement avec les hommages selon votre rang, vous devez reconnaître par une pensée plus cachée mais plus véritable que vous n'avez rien naturellement au-dessus d'eux. Si la pensée publique vous élève au-dessus du commun des hommes, que l'autre vous abaisse et vous tienne dans une parfaite égalité avec tous les hommes, car c'est votre état naturel. » Donc, on n'a pas inventé les principes de la démocratie, donc on ne peut pas en vouloir à Pascal de ne pas avoir dit « acceptons le principe d'égalité dans notre organisation de vivre ensemble. » Le principe d'égalité dans l'organisation reste impensable. Mais Pascal est convaincu que nous sommes naturellement égaux, et par conséquent, ce qu'il dit aux nobles, il dit, et aux princes, « Ayez toujours une pensée intérieure pour vous dire, je suis l'égal de tous les hommes. Ainsi, vous ne serez pas arrogant, et votre autorité sera plus tolérante et plus juste. » Voilà. Alors, je vois qu'il est 19h30, étant donné les conditions naturelles, je dois reprendre un train vers 20h. Donc, je vous demanderai de ne pas poursuivre jusqu'à 20h, mais je m'arrêterai ici pour répondre à vos questions, si vous avez des questions.
Je remercie Monsieur Le Gros pour sa présentation de la pensée de Tocqueville, où on voit bien de manière un peu paradoxale qu'étant nous-mêmes pris dans la démocratie pour comprendre ce que ça implique vraiment, il faut comprendre ce qui n'est pas justement la démocratie et qui appartient à l'Ancien Régime. Et je vous cède immédiatement la parole pour des questions ou des commentaires.
Oui, comme vous voyez, par déformation professionnelle, j'ai plutôt présenté Tocqueville comme un philosophe. Parce que ce qu'il en ressort, c'est qu'est-ce que l'être humain, pour subir de telles mutations et être lui-même façonné par un mode de vivre ensemble. Au fond, c'est ça. Sa grande interrogation, c'est d'où vient que il va de soi pour nous que, par exemple, un être humain est un être humain, que nous sommes naturellement égaux, que le principe d'autorité est un principe très faible. Qu'est-ce qui fait que ça va de soi pour nous alors que c'était impensable pour un homme du Moyen-Âge, qui pourtant pouvait avoir toute l'intelligence de saint Thomas, de saint Augustin, ou de Platon, ou d'Aristote? Comment se fait-il que les anciens avaient une telle intelligence et qu'ils ne sont jamais venus à cette idée qui pour nous est si simple, qui énonce que tout être humain vient au monde sur un pied d'égalité avec un autre être humain? Jamais ils ne sont arrivés à cette idée qui nous paraît si simple. Ça, c'est une grande interrogation sur l'être humain.
Si je me rappelle bien, Tocqueville a aussi mis en garde contre les dérives ou les pièges de la démocratie. Pourriez-vous nous en dire un mot?
Ah oui, c'est toute une partie. C'est aussi une très grande partie de l'œuvre de Tocqueville, c'est d'avoir montré l'ambiguïté des effets de l'égalité ou des effets de l'autonomie. Parce que si vous dites aux hommes « nous sommes égaux », chacun est un être autonome. Si nous comprenons cette égalité comme une égalité empirique, eh bien, il va s'en suivre une série de conséquences qui vont conduire, d'une certaine manière, à nous déshumaniser. Parce que notre égalité n'est pas une égalité empirique, puisque qu'est-ce qu'elle signifie en démocratie, l'égalité? Si elle était empirique, il y a des millénaires qu'on l'aurait vue. Aristote, par exemple, ne cesse de dire, en tant que nous faisons partie d'une espèce animale, nous sommes tous égaux. Ça, c'est une égalité empirique. Tous les êtres humains, en tant qu'ils font partie de la même espèce animale, sont tous semblables. Parce que le semblable engendre le semblable, dit Aristote. Un chat engendre un chat, parce que l'engendrement, c'est le passage de la forme spécifique. Et par conséquent, tous les hommes sont semblables. Et pourtant, Aristote dit bien que l'esclavage est dans la nature, est naturel. Au niveau de l'organisation de la cité, il y a des différences de nature entre les êtres humains. Donc cette différence de nature, elle peut aller de pair avec une égalité empirique, ce que nous sommes en tant qu'animaux, mais elle ne peut pas aller de pair avec un autre type d'égalité qui n'a rien d'empirique. Alors, comme égalité non empirique, je vous ai cité l'égalité qui est affirmée au cœur du monothéisme, que nous soyons tous égaux parce que tous à la ressemblance de Dieu, ça n'a rien d'empirique. On ne peut pas dire, ça c'est une conclusion empirique. Comme on pourrait dire, nous sommes des bipèdes, ça c'est empirique. Nous sommes des bipèdes sans plumes, comme on disait au Moyen-Âge, ça c'est empirique. Nous sommes des mammifères, ça c'est empirique. Mais nous sommes à la ressemblance de Dieu, c'est pas empirique. En démocratie, on ne dit pas nous sommes égaux en tant que nous sommes à la ressemblance de Dieu, on dit nous sommes égaux en tant qu'être autonome en tant qu'homme. Mais que signifie cette autonomie? Elle ne signifie pas arbitraire. C'est ça la grande distinction que fait Tocqueville. Autonomie ne signifie pas arbitraire. Et il y a déshumanisation dans la démocratie une fois que autonomie est interprétée comme arbitraire. En aristocratie, si nous respectons, par exemple, le principe de la liberté de la presse, ce n'est pas parce que nous l'avons décidé arbitrairement. quel que soit le législateur, il est obligé de dire qu'on respecte la liberté de la presse en démocratie. Ce n'est pas une auto-limitation. Ce n'est pas les hommes qui se disent, eh bien oui, on va apporter quelques limites, par exemple, des limites à notre pouvoir, par exemple, nous acceptons la liberté de la presse. Nous n'avons pas le choix. Alors, d'où vient ce principe? Il vient de la démocratie, mais il n'est pas décidé. Parce qu'une fois la démocratie se met en place, le principe de la liberté de la presse ou le principe de l'indépendance de la justice doit être connu. Ce ne sont pas des principes qui viennent de nous. De même, le principe de l'égalité des conditions, ça ne vient pas de nous. Il n'y a aucun législateur qui a dit « nous allons considérer comme fondamental le principe de l'égalité des conditions ». Pour la bonne raison que le législateur n'est légitime que s'il a été élu sur la base du principe d'égalité des conditions. Donc l'égalité des conditions, elle est déjà là quand le législateur arrive. C'est pas lui qui la décide. Vous ne verrez jamais une égalité qui est advenue simplement parce que le législateur l'a décidé. Le législateur est venu au pouvoir dans la foulée de la démocratisation et à ce moment-là, il ne peut pas ne pas décider qu'il y a liberté de la presse ou liberté de la justice. Pour cet égard, vous citez une remarque de Badinter qu'il a faite en 2002 au moment où Le Pen risquait d'arriver au pouvoir. Il disait « N'oublions pas que si nous sommes en démocratie, Le Pen n'aura aucun pouvoir. » Parce que s'il énonce, par exemple, il n'y a pas la liberté de la presse dans tel cas, cette loi-là tombe d'office en désuétude. Et en France, comme dans les autres grandes démocraties, il existe un état de droit. Une majorité parlementaire d'extrême droite ne pourrait voter des lois qui attenteraient aux libertés et droits fondamentaux des citoyens et des étrangers sans que ces dispositions soient censurées par le Conseil constitutionnel. Et le gouvernement de Le Pen ne pourrait prendre aucun acte réglementaire ni décision administrative qui méconnaîtrait les principes fondamentaux de la République sans encourir l'annulation par les juridictions administratives sous le conseil du Conseil de l'État. Alors, ce qui serait grave, évidemment, c'est si la démocratisation disparaissait des mœurs. Parce que là, on tomberait sur des juges qui diraient, ben, d'accord, j'applique cette loi qui ne respecte pas cette loi qui veut qu'il n'y ait pas de liberté de la presse. Alors, si les juges n'ont plus l'esprit démocratique, alors là, évidemment, c'est grave. Mais aussi longtemps que reste une démocratisation des mœurs, le pouvoir n'a aucune autorité pour imposer une loi antidémocratique. Elle tombe d'office en nullité. Donc, mais sinon, votre remarque est très pertinente. Il y a tout un ensemble de circonstances qui font que, en démocratie, il peut y avoir une certaine déshumanisation.
Je vous remercie. Je remercie Robert Legros. Aujourd'hui, on a abordé la pensée politique. La semaine prochaine, on va aborder plutôt la question esthétique en lien avec la morale, avec Isabelle Ginoux qui va nous parler de Schopenhauer et de Nietzsche.